France Inter, le 7-9.
Léa Salamé, votre invitée ce matin est l'ancien ambassadeur de France en Syrie.
Bonjour à vous Michel Duclos.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur de France à Damas. Vous avez aussi été le numéro 2 de la délégation française à l'ONU alors que la guerre de Syrie éclatait. C'est à ce double titre que vous publiez La longue nuit syrienne, 10 années de diplomatie impuissante aux éditions de l'Observatoire. Une autopsie clinique et sans concession des errements de l'Occident face à Bachar el-Assad et à la tragédie syrienne. Vous y faites le lien dans ce livre entre la guerre de Syrie et la guerre d'Espagne en 1936. C'est en quoi ces deux guerres sont comparables à vos yeux ?
Eh bien, dans les deux cas, les démocraties occidentales ne sont pas intervenues pour soutenir ce qui aurait dû être leur camp. Donc les républicains dans le cas espagnol et le soulèvement syrien dans le cas syrien, alors qu'inversement, leurs adversaires stratégiques, les puissances totalitaires à l'époque de la guerre d'Espagne, et maintenant la Russie, l'Iran et d'autres, elles sont intervenues massivement du côté, dans le cas de l'Espagne, du camp franco, et dans le cas de la Syrie, du gouvernement de Bachar al-Assad.
Donc pour vous, cette tragédie syrienne, ces 8 ans de guerre, c'est le symbole de l'impuissance de l'Occident, de la mort de l'Occident, de son incapacité à réagir ?
Alors, il ne faut pas tout ramener à l'Occident ou à cette asymétrie que j'expose entre les Occidentaux et leurs adversaires, parce que le fond, malgré tout, du drame syrien, c'est quand même le régime syrien, c'est quand même Bachar al-Assad, puis ensuite ses parrains qui l'ont aidé à massacrer son peuple. Mais oui, c'est quand même un test extrêmement important du recul de l'Occident qui n'a pas défendu les gens qu'il aurait dû naturellement défendre.
Mais l'Occident n'a pas pu ou n'a pas vraiment voulu en fait faire tomber Bachar al-Assad ?
Ça n'intéressait pas Barack Obama. Ça a correspondu à une période où les Occidentaux éprouvaient une sorte de désenchantement à l'égard de l'usage de la force. C'est ce que je raconte. Il y avait eu l'Afghanistan, il y avait eu l'Irak, il y avait eu la Libye. Et donc personne n'avait envie de recommencer en Syrie, même si là il y a eu une erreur de calcul, parce que ce qu'il fallait faire en Syrie, c'était évidemment pas envahir la Syrie, comme on l'avait fait en Irak. Personne ne soutenait cette idée folle, bien sûr. Mais entre ne pas envahir la Syrie et ne rien faire, il y avait une marge, et c'est cette marge qu'on n'a pas su exploiter.
Vous parlez de Barack Obama et vous en parlez dans le livre, c'est la faute initiale, d'une certaine manière, l'absence d'envie des Américains d'y aller. L'Union européenne s'est alignée sur la position américaine, même si François Hollande a eu des velléités à un moment d'intervenir, il n'y est pas allé.
Alors je crois en effet que les Français ont sauvé l'honneur puisqu'ils ne se sont pas alignés sur Assad et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais lorsqu'il s'agissait d'user de la force, seuls les États-Unis étaient en mesure d'intervenir au niveau qui était nécessaire.
Et la France n'aurait pas pu intervenir seule.
Je comprends en tous les cas. On peut pas se mettre à la place des décideurs, mais je comprends que ça aurait été prendre des risques considérables.
La guerre n'est pas finie en Syrie. Hein. Ça fait 8 ans que ça dure et ce n'est pas terminé. Il y a toujours des combats à Idlib en ce moment. Les ONG désespèrent de réveiller la communauté internationale. Il y a eu 300 morts le mois dernier. 67 enfants ont péri sans bruit, dans le silence. Comment expliquer cette immense indifférence ?
Je crois que j'ai beaucoup d'amis évidemment qui s'intéressent à la Syrie et qui me posent cette question. Je crois que les opinions s'auto-censurent. C'est-à-dire que quand on sait qu'on ne peut rien faire, on préfère ne pas regarder, si vous voulez. On préfère oublier. Et un peu, si j'ai écrit ce livre, si vous me permettez une remarque personnelle, c'est ça, c'est que la Syrie, c'est un drame qu'on veut oublier alors qu'on a en réalité toute raison d'y penser, de s'en souvenir.
Stéphane de Misrata, de Mistura, le chef de la mission de l'ONU, qui a démissionné en novembre dernier, a dit « De toutes les guerres que j'ai vues, la Syrie est la guerre la plus cynique ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Je crois que c'est une guerre extrêmement cynique parce que le régime, mais aussi la Russie, il faut le rappeler sans cesse, utilise des tactiques guerrières incroyables. Lorsqu'il bombarde les hôpitaux, il vise les groupes rebelles modérés qui sont pro-occidentaux, jamais les djihadistes, ou presque jamais. Maintenant, ils en arrivent enfin aux djihadistes. Mais jusqu'ici, ils n'ont visé que des groupes modérés. Et maintenant qu'ils s'attaquent aux djihadistes, ils commencent par bombarder les populations. Car c'est ça leur stratégie, les hôpitaux et la population.
C'est ce qu'ils font à Idlib notamment.
Y a autant de morts et il y a déjà 300 000 déplacés. C'est une stratégie qui rompt avec toutes les règles qu'on avait réussi à mettre en place à la fin du XXe siècle sur le droit humanitaire et la protection des populations.
Vous parlez des 300 000 déplacés uniquement à
l'intérieur d'Idlib, à cause des récents bombardements.
Ouais, mais ça fait 8 ans, 350 000 morts, 7 millions de réfugiés, et Bachar el-Assad est toujours au pouvoir. Comment vous expliquez sa résilience, sa résistance ?
C'est un clan qui a mis la main sur ce pays, d'abord sur sa communauté, ensuite sur le pays, qui règne uniquement par des moyens de répression, par ce qu'on appelle les mourabarats, ce qu'on traduit en français par renseignement, mais c'est un mot trompeur. En réalité, c'est des polices politiques. Il y a 7 ou 8 Gestapo, si vous voulez, en Syrie. Et c'est des gens qui pensent que seule la force peut leur permettre de survivre parce qu'ils ont un complexe d'illégitimité vis-à-vis de la majorité de la population qui est sunnite et dont ils ont le sentiment que jamais ils ne pourront obtenir la moindre indulgence.
Oui, dites-moi.
Et pour Assad, chaque jour qui passe, c'est une victoire. Donc pour lui, ce qui est important, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et il a la conviction, et jusqu'ici ça lui a réussi, que les astres changeront, que ses adversaires disparaîtront.
Qu'est-ce qui se négocie en ce moment ? Est-ce qu'on entend parler de ce deal que l'Union européenne pourrait passer avec Bachar el-Assad ? Vous acceptez de faire revenir les réfugiés et en échange on reconstruit la Syrie. Est-ce que c'est ça qui est en train de se dealer ?
Avec les Européens, c'est ça. Du moins, c'est le débat, c'est la bataille. C'est pas encore gagné. Et c'est difficile parce que c'est difficile de dire non, on n'aidera pas les Syriens parce qu'on ne veut pas se compromettre avec le régime. Et pourtant, si on met de l'argent pour la reconstruction, selon l'expression consacrée, on est sûr que ça ira dans les poches des proches du régime.
Donc il ne faut pas mettre de l'argent ?
Donc ce serait un marché de dupes, et je crois qu'il faut résister à cette tentation.
Emmanuel Macron, c'est quoi sa politique arabe, la politique arabe de la France ? Ça vous fait sourire ?
Non, je crois qu'il faut le lui demander. Mon sentiment personnel, si vous voulez, c'est que nous avons vécu pendant quelques décennies sur l'héritage de 67, de quelques formules du général de Gaulle, et ensuite quelques formules de Chirac, de Michel Jobert. Maintenant, il faut tout reconsidérer, et tout reconsidérer en partant des peuples, en partant de cet immense besoin qu'éprouvent les populations de ces régions de se débarrasser de régimes oppresseurs. Mmh. Et donc, il faut avoir une politique beaucoup plus dirigée vers les sociétés civiles.
Qu'est-ce qu'on fait avec les djihadistes français qui sont aujourd'hui aux mains des Kurdes ou des Irakiens ?
Là encore, si vous voulez, j'ai été moi-même aux affaires. Je sais combien c'est très difficile de prendre ce genre de décision. Ce que je voudrais dire, c'est que le risque absolu, c'est que ces djihadistes arrivent entre les mains du régime Assad. Car là, nous serons l'objet de tous les chantages possibles et imaginables et de tous les risques d'attentats. Et donc, de ce point de vue, je comprends que c'était normal de les transférer, notamment en Irak. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. J'étais moi-même à Bagdad à la mi-janvier. On peut avoir beaucoup d'espoir sur ce pays. Malgré tout, ce n'est pas des gens très fiables pour leur confier ce type de personnages.
Michel Duclos, vous citez Montaigne en exergue de votre livre « Je dis vrai autant que je l'ose dire et l'ose un peu plus en vieillissant » pour un ancien ambassadeur tenu en général à un certain devoir de réserve. Vous en dites beaucoup sur la longue nuit syrienne, 10 ans d'impuissance de l'Occident face à la Syrie. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous et belle journée à vous.
Merci beaucoup Léa Salamé.
Merci Léa également et à tout à l'heure.